Chers auditeurs, bonjour. Pour ce troisième mois de l'année, j'avais envie de vous parler et de donner la primeur, pour l'ensemble de la chronique, à un journaliste hors pair, un écrivain totalement exceptionnel. Il aborde des sujets de ses ouvrages d'une façon fulgurante. Il peint avec talent la trame littéraire qu'il veut aborder. Dans tous ses livres, vous retrouverez un côté visuel qui est toujours très alimenté par des documents. Il nous emporte dans un rythme infernal où bien souvent les conflits humains nous sont décrits. Son style d'écriture est totalement libre, innervé par un sentiment de fronde envers une société qui parfois sacrifie les plus fragiles. Il sait, et cela est exceptionnel, nous donner une intrigue romancée avec l'énergie et l'étoffe d'un excellent roman, toujours très largement étoffé par des sujets ou des faits réels. Dans tous ces derniers, nous découvrons l'écriture déchirante d'un auteur qui sait empoigner l'esprit du lecteur dans la lecture de son texte. Dos Santos est un ovni littéraire, un styliste brillant qui sait manier la truculence et le lyrisme avec une aisance déconcertante. Impossible de ressortir indemne des lectures électrisantes. Je ne pourrais pas ajouter dans cette chronique littéraire une proposition pour les 26 titres publiés, mais cette émission recensera cependant trois ouvrages dont justement chaque fois le sujet est un tantinet différent et qui ont paru ces deux dernières années. Un exemple du talent de l'auteur, que d'ailleurs, pour notre plus grande joie, nous avons pu entendre à l'antenne plusieurs fois. Vous l'avez saisi, nous rendons un hommage aujourd'hui dans notre émission littéraire à ce journaliste reporter de guerre, écrivain portugais, présentateur phare du journal télévisé 20h de la chaîne publique RTP1. Une envie littéraire pour vous permettre de vous confronter à son talent sur des sujets totalement différents. Les trois ouvrages d'ailleurs ont été publiés aux éditions HEC. Nous allons commencer par ce titre, une petite merveille littéraire, que je vous ai d'ailleurs déjà proposé dans une chronique. La trame, alimentée comme toujours avec des recherches de l'auteur et des renseignements donnés par les plus grands spécialistes en la matière, nous ne pouvons qu'être totalement addictifs. Magnifique. Rarement je n'ai connu un texte aussi concis et aussi complet. Un titre qui tient à cœur grand nombre d'entre nous. Il s'agit du domaine de la protection animale, car il aborde les sujets de l'éducation, de l'expérimentation animale, des abattoirs. J'avoue que certains passages, décrits avec talent et d'émotion, m'ont fait d'ailleurs ravaler mes larmes. Une écriture titanesque, autant souvent prophétique et ésotérique, qui nous laisse au terme de notre lecture totalement hallucinés, comme après un passage d'un cyclone. Tellement de sujets d'actualité sont abordés dans ce secteur. Il s'agit de âme animale. Lisbonne. Un scientifique est retrouvé mort, flottant dans le jardin aux orques de l'Océanoria. Tout accuse Maria Flore, qui est la femme de Thomas Naranja, le héros de l'auteur, je vous le rappelle, qui travaillait sur un sujet secret avec un grand spécialiste de l'intelligence animale. Pour prouver l'innocence de celle-ci, le célèbre cryptologue va devoir alors découvrir le véritable auteur du crime. Il se trouve confronté aux intérêts d'une ancienne confrérie surgie du passé. Il s'agit des Rose-Croix. Et l'un des plus mystérieux secrets de la nature, l'intelligence, les émotions, la conscience des animaux, que ce soit des félins, des primates, des animaux de ferme ou bien encore des cétacés et des poissons. Que cherche-t-on à cacher à tout prix? Quelle est la relation entre ce meurtre et le génocide perpétré par les êtres humains contre la vie sur la planète? Se pose alors une question. Qui sont les véritables bêtes? S'agit-il des animaux ou bien des hommes? Cette fois encore, le romancier s'attaque à l'un des plus grands tabous de notre temps, l'âme des animaux. Avec toujours sa capacité inégalée pour nous expliquer les avancées de la science, les grands enjeux économiques deviennent pratiquement clairs. L'homme, les animaux, la planète, tout est lié. Il mentionne dans son livre « Mes relations avec les animaux n'ont jamais été très simples » car il précise aussi « Je ne sais pas interpréter leur posture. Je ne saisis pas, mentionne-t-il, lorsqu'un chat aboie, si c'est pour mordre ou tout simplement parce qu'il s'est réveillé mal disposé. » et il mentionne que pour écrire cet ouvrage, il a dû consulter une vaste biographie spécialisée. Le passage concernant les abattoirs est totalement terrifiant et m'a terriblement bouleversée. Dans les dernières pages, il mentionne une phrase d'Isaac Balsémy-Singer. Dans leur comportement envers les créatures, tous les hommes sont des nazis. Présumer que l'homme peut traiter les autres espèces comme bon lui semble, alimenter les théories racistes les plus extrêmes et le principe selon lequel la force l'emporte toujours. Je vous convie réellement de vous pencher sur cette trame qui est totalement passionnante. À présent, je vais vous proposer un autre ouvrage qui va vous donner justement l'ampleur de son écriture. Il est inspiré par la vie du plus grand philosophe de tous les temps. Il s'agit du célèbre écrivain contemporain majeur de notre temps. Dos Santos nous raconte comment Spinoza a mis fin à l'âge des ténèbres et a inventé le monde moderne. Comme il est devenu l'homme qui a tué Dieu. Un livre paru durant le dernier trimestre de l'année 2023. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Amsterdam, 1640. Le jeune Benito de Espinoza, adolescent, assiste avec sa famille au bannissement d'un homme de la communauté juive portugaise. La scène est d'une violence inouïe. Elle le bouleverse et l'amène à s'interroger comment Dieu peut-il laisser agir cela. Car torture, humiliation a lieu devant toute la communauté réunie lors de la prière à la synagogue. Doté d'une intelligence hors norme, Spinoza, pourtant promis à un avenir de rabbin, se lance alors dans la plus grande quête intellectuelle qui soit. Et si tout ce qui est écrit dans la Bible était faux, qui a écrit les textes sacrés? Qui est réellement Dieu? Qu'est-ce que la nature? La connaissance d'un ami et d'un grand spécialiste qui dirige une école de chrétiens libéraux, le collège Janten, dont la fille du directeur donne également des cours et joue divinement du piano, il en tombera d'ailleurs littéralement amoureux, il prend doucement conscience d'une autre religion. Il est alors banni de sa propre communauté, commence une sorte d'exil. À cette période, il faut le rappeler, toutes les questions sont interdites concernant la religion. Il est extrêmement dangereux pour le jeune penseur d'aller plus avant dans ce secteur. Malgré l'aide de ses amis, qu'ils soient philosophes, scientifiques ou bien universitaires, il va bientôt et trop rapidement en payer le prix, soit avec des menaces de mort, ainsi qu'une persécution intellectuelle, car tout l'accuse d'hérésie. Il est pourchassé, change sans cesse de demeure. Aussi, il vit une période délicate. Amsterdam connaît différentes épidémies, ainsi que des guerres. De plus, il a une santé intestinale défaillante, fragile, puisqu'il est atteint de phtisie, maladie pulmonaire qui a d'ailleurs emporté plusieurs membres de sa famille. Mais rien ne semble faire reculer, même l'apparition d'un titre décrété dangereux, qu'il publie d'ailleurs en latin et qui le met dans un danger plus que permanent. Car il est toujours traqué par les polices religieuses, mais qu'importe, même si on le retrouve et s'il doit à nouveau changer d'adresse, fuir sans cesse, il refuse le fait de ne pas parler, de ne pas publier, donnant toujours grande importance à sa pensée de philosophe. Dans ce splendide roman biographique, l'auteur nous fait découvrir la vie secrète et la pensée de Spinoza. Tout en nous contant l'histoire de cet homme exceptionnel, il nous permet la réflexion sur les grands concepts de la philosophie. Un grand coup de cœur pour cet ouvrage. Et je terminerai également, ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre, mentionna Spinoza. Et puis, chers auditeurs, je terminerai aujourd'hui cette émission spéciale avec ce troisième titre, dont je vous avais mentionné d'ailleurs que vous auriez la possibilité d'avoir trois titres. Le héros favori de Dos Santos, Thomas Naranda, nous fait vivre alors une épopée bouleversante avec son roman partie fiction, partie réalité sur la Chine et les Chinois, mais surtout sur le Parti communiste chinois et sa vision de la dictature. Le romancier n'a pas son pareil pour brouiller parfois les pistes avec une grande intelligence, mêlant froideur, émotion, suspense et violence. Il sait mieux que quiconque mêler le tout. car il possède une plume qui peut susciter la terreur parfois dans l'esprit à la lecture de sa trame, dans laquelle est dévoilé beaucoup de points ignorés par grand nombre de lecteurs. Mais quelles sont les véritables intentions du pouvoir chinois ? Comme toujours, inspiré de faits réels, ce thriller implacable aide à mieux comprendre l'actualité. Il explique la stratégie millénaire de la Chine et dévoile les ambitions actuelles de l'Empire du milieu face à l'Occident. Avec ses capacités documentaires et son analyse hors normes, il remonte aux origines de l'Empire chinois et à ce qui en fait ses fondements. Des stratégies fondamentrices du royaume des combattants aux nouvelles routes de la soie. Il ouvre nos yeux sur les véritables intentions du parti pour le monde de demain et cela est totalement terrifiant. Il s'agit du titre « La femme au dragon rouge » qui a été traduit du portugais par Catherine Leterrier, comme toujours. Le sujet. Madina est une jeune Ouïghour qui a vécu dans un petit village dont le grand-père est imam. Lorsque les Chinois peu à peu prennent leurs terres, la famille alors décide d'envoyer un de leurs enfants faire des études en ville. Et seule, la toute petite dernière, Madina, a la possibilité de se déplacer car les autres, l'aînée des familles restant au foyer, doit aider sa mère, c'est une fille, et les deux garçons doivent compléter le travail de leur père. Elle rencontre alors un professeur qui l'aide à comprendre le communisme. Il lui conseille les lectures traditionnelles écrites à la gloire du Parti communiste. Rapidement, elle surprend par son intelligence et devient membre du Parti communiste chinois, faisant cependant partie des minorités puisqu'elle n'est pas chinoise. Comme vous pouvez en douter, elle possède la langue chinoise et elle a lu Marx, Engels ainsi que toutes les doctrines publiées à la gloire du Parti communiste. Elle possède un culte pratiquement sans faille pour le leader du parti. Pourtant, ses frères, sa sœur, son père sont arrêtés au même titre que son grand-père parce qu'ils sont de religion musulmane. Ils ne mangent pas de porc, ne boivent pas d'alcool, ils sont reconnus alors comme terroristes. Elle-même sera dénoncée par la responsable du quartier car son appartement est tout simplement peint en bleu et puis pour d'autres motifs fort futiles. Comme avoir séjourné un temps chez son oncle, qui lui aussi est accusé de terrorisme. Des caméras alors sont installées dans son petit appartement, épiant sans cesse ses mains de gestes et paroles. Ainsi, elle se sent en prison dans son propre appartement. Arrêtée pour prendre le thé au commissariat, thème d'ailleurs qui mentionne une arrestation, elle fera de la prison et sera conduite dans des camps de concentration. Elle est impliquée pour des actes de concertion et de discrimination de nature ethnique et religieuse. Comme beaucoup d'autres prisonnières d'ailleurs, dans le même camp qu'elle, qui sont emprisonnées pour différents sujets, comme celui d'avoir plus de 2 enfants, d'avoir porté le voile pour une femme ou la barbe pour un homme, d'avoir quitté le pays pour faire des études, d'être enregistrée dans un pays voisin ou avoir téléchargé tout banalement WhatsApp, de regarder des sites internet étrangers également. Ou bien encore, comme des écrivains qui ont osé écrire sur la liberté du vol des oiseaux. Comme d'ailleurs ce célèbre écrivain qui publia Le Pigeon Sauvage, magnifique de poésie et fait réel. Ce dernier est mort en prison, dans d'atroces souffrances. La police du parti arrête les personnes en les obligeant à avouer un délit. Comme Madina n'a rien à avouer, elle n'a pas de délit, elle ne savait pas quoi mentionner. Elle subit alors des traitements infâmes, des tortures, comme ongles arrachés, chaise du tigre ou bien encore la stérilisation. On l'oblige à avouer et à signer un document dénonçant son grand-père. Puis, elle travaillera comme esclave dans les ateliers du parti attenant à la prison, et ce, pour de grandes entreprises de marques de vêtements occidentaux. Elle arrive à s'évader avec la complicité de son ami communiste qui est devenu haut dirigeant du parti communiste. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve en Inde, toujours poursuivie. Elle interpelle des habitants dans la rue, crie à l'aide. Elle est aidée alors par Maria Flore, la femme de Thomas, qui était installée à une terrasse de café pour prendre simplement une boisson. Toutes deux s'enfuient. Elles sont rattrapées très rapidement par les forces de l'ordre du parti communiste chinois. Thomas ayant reçu un SMS de sa femme, s'implique totalement et n'ayant aucun résultat de la part des ambassades, il se rend en Inde, où a disparu sa femme et l'inconnu, qui se fait alors appeler Dragon Rouge. Ils tentent de retrouver leurs traces entre l'Inde, le Sri Lanka et le Japon. Mais rapidement, il est confronté à une réalité dont il ignorait l'existence. La stratégie secrète de la Chine et sa très mystérieuse nouvelle route de la soie. Il sera alors aidé par un Chinois qui est devenu américain, espion du CIA, ainsi que certains gradés militaires américains qui lui apprennent que tout est sous contrôle chinois. Les mobiles, les ordinateurs, allégorismes, puces de la grosseur d'un grain de riz qui sont introduits dans les téléphones ou les ordinateurs. Les kidnappeurs peuvent savoir exactement où ils se trouvent. Magnifique de suspense et surtout truffé d'informations totalement confidentielles que Dos Santos a pu obtenir, comme toujours, auprès de différents analystes ou de grands spécialistes. Un test totalement éblouissant. Je ne vous donnerai pas la finalité, qui n'en est pas une d'ailleurs, mais j'avoue que les dernières pages constituant la note finale sont à elles seules représentatives d'une foule de renseignements marginaux. Comme il le mentionne, le fascisme est largement évoqué et très similaire avec les actes horribles commis durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Plus que recommandé cet ouvrage, indispensable à lire, 630 pages qui ont paru aux éditions HEC, 22,50 €. Voici, chers auditeurs, pour cette semaine. Je vous avais promis une émission un tantinet différente. Mais restez toujours à notre écoute, sur notre antenne, pour la suite de notre programmation. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec également et toujours de très belles surprises. Au revoir.